Voilà, vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission Quoi de Neuf, qui va entamer une partie importante sur la science. Une heure consacrée, ou une petite heure, on va dire, hein, consacrée donc à la fête de la science, puisque chaque année nous réalisons trois émissions sur la fête de la science. Là, c'est la deuxième séquence. La première a eu lieu la semaine dernière pour une présentation générale de cette édition 2024. Là, eh bien, on va parler de un événement et puis de structures aussi hein, qui portent cet événement. Et donc, on va parler du Forum des sciences qui est à Villeneuve-d'Ascq, avec ce village des sciences qui s'y installe, ou qui s'y est peut-être déjà installé d'ailleurs. On va avoir tout de suite les informations sur cette participation du village des sciences, du Forum des sciences, mais aussi de l'INRIA, qui est une école qui se qui est un lieu de recherche qui se présentera associé au village des sciences, du Forum des sciences. Voilà, j'ai un peu résumé, mais on va partir maintenant avec les personnes qui sont invitées. Samuel de Reder, qui est responsable du service Action culturelle au Forum départemental des sciences. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, il y a donc, peut-être on va prendre ce micro-là, oui, voilà, c'est bien, comme ça.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Et puis, il y a du côté de l'INRIA, Julia Playa. Bonjour, Julia.
Bonjour.
Et puis, Adrien Luxet-Bitry.
Bonjour. Bonjour, René.
Voilà, donc, vous êtes venus ensemble pour parler d'un projet commun, si j'ai bien compris.
Mmh. Oui. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'exposition numérique en nos troubles. Qui est une expo qui a été montée par INRIA et qui bénéficie du soutien du Forum départemental des sciences qui nous met à dispo ces espaces pour pouvoir l'exposer à partir de vendredi.
Alors l'INRIA a une spécificité, c'est le numérique, l'intelligence artificielle aussi pendant qu'on y est.
Ça fait partie des sujets qu'on adresse, oui, tout à fait, la science des données. Oui, INRIA, c'est un institut de recherche en sciences et technologies numériques.
Et donc, votre idée, c'est de trouver des solutions à des problèmes actuels, même s'ils sont parfois anciens. Il y a des problèmes qui sont déjà anciens, mais qu'on peut maintenant traiter différemment, sinon mieux.
Mmh. Oui, la question du numérique pour l'environnement, c'est un des sujets qui est adressé là au centre INRIA de l'Université de Lille, et en particulier par une de nos équipes projet, qui est l'équipe projet Spirals, et dont Adrien est un représentant.
Celle à laquelle j'appartiens, effectivement. Donc moi, enchanté, Adrien Luxet-Bitry, maître de conférence à l'Université de Lille, et donc vous savez peut-être que les maîtres de conférence, c'est des petits profs, ils font enseignants et chercheurs.
Souvent, ouais.
Du coup, je passe la moitié de mon temps à l'université Cité Scientifique et la moitié de mon temps à la Haute-Borne, à l'INRIA.
Donc, dans vos missions, transmission, vulgarisation, il y a les écoles, les collèges, les lycées, et il y a aussi le grand public qu'on retrouve dans ce lieu qui porte aussi cette exposition, qui est le Forum des sciences. Donc, cet aspect grand public, effectivement, on peut aussi s'emparer de sujets pointus. Comment on trouve la bonne adéquation entre des recherches qui sont parfois très complexes et une approche grand public qui permet quand même d'en comprendre le sens?
Je vais me permettre, du coup.
Oui,
au Forum des sciences, c'est tout le travail de la médiation scientifique qui est mis en place par le service de l'action culturelle. Et du coup, c'est toute une recherche et une expérience à avoir sur la transmission et le discours qu'il faut avoir. Et souvent, on passe par le jeu et par la pratique pour pouvoir transmettre les messages scientifiques. Et donc, c'est la spécificité du Forum des sciences. Et on est ravis de vous accueillir à l'INRIA. Du coup, pour la fête de la science, c'est un vraiment très très beau projet. Tu disais tout à l'heure qu'on était en train d'installer. En fait, effectivement, on a installé l'exposition ce matin et on est très content de pouvoir les accueillir. C'est un très très beau projet, très intéressant. Un gros travail de recherche et de transmission avec une journaliste qui a très bien travaillé.
Ah, c'était assez incroyable, oui. 3 heures de blabla avec mon collègue, du coup un autre maître de conférence de l'INRIA mais de Lyon, Aurélien Tabar, ont été transformés brillamment par du coup Sophie Blitman, notre journaliste en chef, en quelque chose de construit, de cohérent et d'accessible. Après, je me rassure en espérant que la question environnementale, et du coup ici focus sur l'eau, donc le lien entre la ressource en eau et le numérique, soit relativement accessible par rapport à des recherches plus fondamentales, parce que chacun s'y identifie, le numérique et l'environnement ont une prégnance dans la vie d'à peu près tous les gens, et donc il y a beaucoup de questions qui sont posées, et j'espère qu'on pourra répondre à certaines d'entre elles.
Donc ce thème de l'eau, j'allais dire qu'il est porteur, on sent flotter tout de suite mieux, on sent des inquiétudes monstrueuses quand même qui arrivent, et il y a quand même des gens qui s'en préoccupent, Est-ce que la riposte est proportionnelle au problème et comment vous, vous intervenez pour apporter des outils, des solutions, voire même des réflexions ?
Mmh. C'est typiquement le travail effectivement de la recherche. Il me semble que de fournir une instruction aux dossiers qui sont par essence plutôt politiques. Donc on passe des dossiers aux politiques qui va prendre des décisions. Mais je suis très heureux de voir en France qu'il y a une très belle vitalité, je pense, de la question environnementale au travers d'agences gouvernementales comme l'ADEME, qui, elle, du coup, est l'agence sur l'environnement, l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des réseaux, qui aussi, du coup, soucie beaucoup de savoir comment les gens se saisissent du numérique, comment est-ce qu'il faut adapter les infrastructures et qui font de l'environnement aussi, et par des groupes de recherche Eco-Info en France qui organise une conférence Green Days, en Europe plus largement des conférences. Je trouve qu'il y a une bonne réflexion en tout cas en Europe sur les questions environnementales. Après, est-ce que ça suit macroscopiquement ? Bah, y a une inertie dans les sociétés, de toute façon on ne peut pas changer drastiquement nos modes de vie en deux secondes, mais d'abord il faut les comprendre.
Et nous, c'est pas nos missions en fait d'interpeller les politiques sur ces questions-là. Par contre, de sensibiliser les publics, ça c'est important. Et c'est pour ça qu'on va passer par des animations et des jeux pour pouvoir discuter en fait avec le public sur ces questions-là. Et donc on a des choses qui vont être pour la fête de la science notamment accessibles à tout le monde, à toute la famille, aux tout petits et aux plus grands, et qui vont amener du coup à discuter avec la médiation autour des animations. Et puis c'est très chouette d'avoir cette exposition de l'INRIA parce que du coup on va un peu plus loin dans la réflexion et on va jusqu'à à se questionner et c'est pas des choses que nous on fait d'habitude, mais on est content de pouvoir accueillir aussi ce questionnement et sur nos pratiques et lié à l'eau, parce qu'effectivement c'est un enjeu qui est colossal et qui commence à interpeller beaucoup de monde.
Et c'est tout l'intérêt aussi pour un institut comme INRIA de travailler avec un partenaire comme le Forum départemental des sciences, parce que favoriser le dialogue entre les sciences, les technologies, la société, c'est une des missions de l'institut INRIA, de décrypter, de venir soulever le capot de ces technologies qui sont développées chez nous, de les faire comprendre, de sensibiliser les citoyens à un certain usage du numérique, à l'impact du numérique pour la société. Et donc c'est vrai que s'associer à un acteur comme le Forum départemental des sciences, c'est tout de suite bénéficier d'une force de frappe, d'aller toucher le grand public, les scolaires, les citoyens, autrement que si on le faisait par nos propres moyens.
Alors, l'eau, c'est un domaine tellement vaste que les problématiques sont larges. On peut parler de l'eau qu'on consomme, qui peut être plus ou moins de qualité. On peut parler déjà de l'eau qui n'existe plus dans certaines zones puisque c'est desséché, des déserts, etc. On ne trouve plus d'eau. La notion de migration, j'en parlais dans l'émission précédente, liée à la désertification, trouver de l'eau ailleurs, les problèmes sont multiples. Est-ce que quand on voit par exemple des analyses de l'eau qui sont faites, il y a une réelle exigence de plus en plus importante du consommateur ou même des gens chargés de sa protection, ou est-ce qu'il y a vraiment plus de problèmes qu'avant ? Je me demande parfois si, à force de chercher au microscope des choses qu'on ne cherchait pas avant, forcément on trouve des difficultés dans l'eau de consommation, par exemple. Jusqu'où les analyses qui sont faites, elles témoignent d'une réalité, d'une dangerosité, ou est-ce que forcément, quand on doit chercher dans une eau des choses qu'on ne cherchait pas avant, on va en trouver maintenant avec les outils qu'on a.
Oui, oui, c'est vrai. C'est plus il y a de policiers dans une ville, plus il y a d'infractions qui sont commises. Donc plus il y a de contrôle sur l'eau, plus on constate des dérèglements avec l'eau. C'est pas surprenant. Mais pour autant, ça découle d'une prise de conscience des différents types de polluants. Et du coup, on découvre des nouveaux polluants, les dioxines ou quoi, qui sont, pour le coup, avérés cancérigènes. Et du coup, maintenant qu'on s'y intéresse, on peut la mesurer parce qu'on la filtre aussi. Donc, on a les moyens d'agir contre et on vérifie que ces moyens ont bien été appliqués. Disons qu'il n'y a pas eu de problème dans le circuit de transfert de l'eau. Des fois, c'est juste, vous savez, une fuite qui fait qu'une eau n'est pas potable dans un village pendant quelques semaines, le temps qu'on résolve ça. En tout cas, ouais, ce qui nous a pas mal intéressé ici, plus que du coup les questions de cycle du coup de l'eau qui, vous savez, est polluée quand elle sort de chez vous, revient dans une centrale de traitement de l'eau et ensuite est redisponible. Là, on va aborder des questions, par exemple, sur la mine qui intrinsèquement utilise des quantités massives d'eau pour réussir à séparer le métal à l'intérieur du minerai. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a jamais qu'un seul minerai il n'y a jamais qu'un seul métal dans du minerai. Il y a souvent plusieurs métaux. Par exemple, avec de l'or, vous allez trouver de l'arsenic à côté. Et du coup, ça transmet des pollutions qui sont plus durables. Et là, on peut dire qu'une certaine proportion de l'eau quitte le cycle de l'eau parce qu'elle est polluée éternellement. En tout cas, très longtemps, et qu'elle risque aussi d'imprégner les nappes phréatiques sous-jacentes. Donc, c'est des problèmes qui sont plus industriels que ce qu'on voit, en tout cas pour la mine, que ce qu'on voit en termes de cycle et de consommation. Mmh. Et ouais. Après, il y a beaucoup de questions à se poser sur l'agriculture aussi et ce genre de choses.
Je vois, par exemple, dans ma région, hein, le bassin minier, il y a eu la guerre 14-18 dans l'endroit où j'habite, hein, et là, on s'est aperçu. En cherchant, en analysant l'eau de façon plus précise, que les obus avaient libéré des substances qu'on retrouve maintenant dans la nappe phréatique, chose qui n'était pas forcément envisageable. On ne se rendait pas compte à quel moment ça allait arriver dans la nappe phréatique. On peut par exemple dire maintenant que les pays qui sont bombardés en masse auront ce problème avec leur eau dans quelques années, forcément.
Certainement.
Et pour répondre un peu plus loin sur la question, quand l'INRI est venu nous voir, l'objectif c'était de dire il y a un développement du numérique qui est colossal, enfin qui est vraiment conséquent, et de se dire ça a des conséquences sur l'eau. Et c'est bien du coup le fait qu'il y ait beaucoup plus de numérique actuellement qui fait que on faut absolument qu'on se pose la question de l'impact que ça a sur l'eau. C'est pas parce qu'on cherche plus, c'est on sait que le numérique en fait a des conséquences assez fortes là-dessus. Et ce que tu disais tout à l'heure hein, sur notamment sur les minerais, mais il y en a plein d'autres. Hein, quand on a conçu l'exposition au départ, on s'est amusé à faire des jeux à travers un jeu qu'on a développé nous au Forum des Sciences hein, sur qu'on appelle qui est issu de la malle numérique, qui est une malle qui est à destination pour l'itinérance. Et on a joué à un jeu et on se rend compte, en fait, effectivement, du nombre de matériaux qu'on a besoin pour construire un téléphone, pour construire un téléviseur, enfin voilà.
Voiture électrique.
Voilà. Et c'est assez fou, en fait, on se rend compte des déplacements, de la quantité d'eau qu'il faut pour extraire, etc. Oui. C'est assez fou.
Et alors, René, pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce que Adrien disait sur la pollution de l'eau, soit par les armes, voilà le sujet que tu évoquais, ou soit par l'activité d'extraction de minerais. Un des sujets qui est abordé dans l'exposition, c'est aussi la question de la pollution de l'eau par les décharges d'objets électroniques. Mm-hmm. Ça, c'est aussi un véritable sujet qui est abordé dans l'exposition. C'est idem, en fait, l'eau s'infiltre à l'intérieur de ces matériels informatiques et viennent polluer durablement les nappes phréatiques. Là aussi, ça pose un problème de santé publique.
Alors, c'est vrai que j'ai visité des zones de recyclage de produits, enfin d'éléments du quotidien pour se débarrasser. On jette les déchets, il y a les centres de tri. Et après, il y a ce qu'on peut pas finaliser en recyclage qui finit, on ne sait pas trop où, enterré. Il y a un site d'enfouissement pas loin de chez moi. Les gens de la ville sont furieux, mais on me dit... Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Il faut bien les mettre quelque part. Donc ceux de la ville ne sont pas contents, forcément, parce que ça aura un impact à long terme. Hein. Mais pour les autres, ils disent, pourquoi pas là ? Ils ont raison de râler, mais en même temps, on voit que là, on peut le mettre. Donc il y a toujours des perdants dans ces jeux-là. Et là, je parlais d'une ville où c'est quand même relativement maîtrisé en termes de risque, mais quand on renvoie nos décharges, nos poubelles à des pays... en disant ils vont, contre un peu d'argent, se débrouiller avec ça. Mais en fait, dans 10 ans, 20 ans, ils auront seulement l'addition qui va se présenter à eux. Quoi. Mm-hmm. Quelque part, on joue à se débarrasser de pollution, en la confiant à d'autres. Oui. Bien sûr, il y aura des nuisances à terme.
Oui, bien sûr.
Bon, il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet. Déjà, on remplit bien notre territoire avec nos propres déchets quand même. On en incinère une bonne partie, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée. Si vous avez du numérique, effectivement, enterrez-le plutôt que de l'incinérer, parce que la combustion va libérer des métaux lourds dans l'atmosphère, et les ferrailles ultimes que vous obtiendrez, c'est-à-dire vraiment la poudre de trucs qui n'ont pas brûlé, sera toxique. Et du coup, normalement, les déchets ultimes, comme ça, on les utilise pour faire typiquement le terrassement des routes. Donc on roule sur nos propres déchets. Il y a une certaine poésie. Mais oui, il y en a effectivement une partie qui est envoyée à l'étranger. Généralement, dans le cadre d'accords qui ne sont pas tout à fait connus. Je regardais un documentaire aux États-Unis, là où c'était une entreprise qui promettait de faire de la gestion de déchets propres et qu'ils se sont fait pincer la main dans le sac à envoyer illégalement des déchets, je ne sais plus si c'était en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Mais ouais, là récemment, il y a eu un cas, l'Asie commence à refuser les déchets plastiques des États-Unis. Et donc les États-Unis sont bien embêtés, donc actuellement ils incinèrent beaucoup, et ils sont en train d'essayer de faire un accord économique avec le Kenya, libre-échange contre « on vous envoie vos déchets ». Bon, moi, je serais les Kenyans, mais bon. Et oui, du coup, voilà, il y a plusieurs problématiques là-dessus. Quelque chose que j'ai pas mal étudié, du coup, dans le cadre de cette exposition, c'est la gestion des déchets, effectivement, les déchets électroniques. Il y a deux méthodes qui existent actuellement. Il y a l'artisanal, qui est généralement faite dans des conditions précaires, du coup, parce que c'est pas encadré. Donc, c'est très dur d'obtenir des informations chiffrées. Mais là où c'est marteau-burin, on désassemble les ordinateurs, etc. Et on traite, généralement en brûlant, par exemple, les câbles pour récupérer du cuivre. Et il y a la méthode industrielle. Donc ça, c'est celle qu'on voudrait voir se développer, typiquement, parce qu'elle est encadrée déjà. Hélas, déjà, pour la collecte, mondialement, on collecte que 17% des déchets électroniques. Donc là, on a un petit problème rien qu'au niveau de l'entrée dans le système de recyclage. Et ensuite, les trois étapes du recyclage, du coup, comprenez bien qu'avant le recyclage, il faut viser plutôt le réemploi, la réutilisation, de récupérer le matériel pour pouvoir le réemployer. Mais si on doit en venir au recyclage, alors malheureusement pour le moment 17% à la collecte. Après, il y a l'étape de pré-traitement, qui est le moment là où vous séparez les différents métaux, idéalement, ou en tout cas pièces qui peuvent être recyclées. Et après, il y a le traitement à proprement parler, là où vous récupérez par des procédés chimiques, gravitiques et divers et variés, les différents métaux, en utilisant de l'eau. Et donc là, c'est pas terrible non plus. Ce qu'on fait en Europe, et je crois mondialement en fait, c'est qu'on prend tous les matériaux électroniques, on les sépare, les disques durs d'un côté, la mémoire vive de l'autre, etc. Et on les met tous dans une broyeuse. Et puis après, on a du sable, et maintenant, il faut séparer les trucs intéressants là-dedans. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à l'intérieur de ce sable, de finement broyade de numérique? Grosso modo, on récupère 5 métaux. Va y avoir le cuivre, parce qu'il est conséquemment utilisé et facilement récupérable, et très important. On a l'or, parce que ça vaut une blinde. Et du coup, hélas, il n'y en a que quelques dixièmes ou centièmes de grammes, donc des décis ou des centigrammes par téléphone, mais quand même, votre téléphone vaut de l'or. Et donc ça, on va réussir à le récupérer. On va récupérer platine, parce qu'il y en a aussi, palladium, alors j'ai pas trop suivi comment, mais c'est à peu près tout. Il y a aussi, bien entendu, l'aluminium de la coque de votre ordinateur, etc. Mais le reste, bah, finit en ferraille ultime. Mmh. Et effectivement, c'est un problème de volume. Donc pour ça, il faut réfléchir sur le cycle de vie, donc ce qu'on a fait. Combien de temps gardez-vous votre téléphone? Et c'est pas vous que je blâme, c'est il y a des dynamiques à modifier pour réussir à faire en sorte que nos matériels informatiques durent le plus longtemps possible. Et c'est un sujet de recherche.
Et puis il y a bien sûr le marché, le fait de faire consommer, de changer d'appareil, la publicité, la communication. Si on n'a pas le dernier téléphone, on est un nul. Enfin voilà quoi.
Les différents types d'obsolescence, oui, tout à fait.
Et donc là, on est difficilement en possibilité de se battre contre des gens qui dépensent des moyens à faire consommer d'une certaine manière les personnes. Les États ont du mal à rendre plus raisonnable cette consommation des personnes. Mmh.
C'est multifacette. J'aime bien présenter la société sous trois volets, du coup. On en a parlé des trois déjà en plus. Le public, donc, qu'avec le Forum des sciences, nous autres chercheurs pouvons un peu plus toucher. Les chercheurs, qui produisent du coup une connaissance scientifique. Et l'industrie. Le public, ce qui, du coup, l'industrie, comme je vous disais, et le législateur. Donc, on avait aussi parlé de la politique de manière générale. Et du coup, que notre rôle en tant que, un de nos rôles en tant que chercheur est aussi de fournir des dossiers pour le politique. Mais là, il y a l'industrie, quand même, qui est importante à mettre dans la pièce, parce que c'est un marché très, très, très dynamique, l'informatique. Et donc, il y a de nouvelles innovations très régulièrement. Je sais pas, vous voyez la vitesse à laquelle ChatGPT a débarqué dans nos vies et de façon importante. Ce matin, je prenais le métro à 7h40 et j'étais le seul à ne pas avoir ou un casque sans fil ou des oreillettes sans fil. J'ai vu une personne avec des oreillettes filaires. Mais donc là, par exemple, il y a tout un paquet de marchés périphériques qui sont très récents. Les AirPods, ça n'a pas 4 ans en soi, qui ont complètement inondé le marché. Donc, après, le législateur ne peut que faire un travail de réaction. Dire « Ouh, mollo, on va réguler ça, installer des data centers, réfléchir un petit peu auquel on installe où, ce genre de choses-là. » Mais d'abord, on est face à une industrie très, très dynamique, avec effectivement des manières pour faire de la publicité pour ses services, et donc un public qui est réactif et en demande. Mais oui, donc ça, c'est ça qui est coton, notamment dans l'étude qu'on a fait, du coup, de réussir à trouver des chiffres un peu fiables, parce que tout est... obsolète à chaque fois qu'on le lit. C'est, ça y est, ça date de 2017, c'est le bout du monde, les ordinateurs ne fonctionnent plus du tout comme ça. Enfin bon, voilà.
Alors, c'est vrai que depuis, il y a des gens qui s'intéressent au recyclage et à remettre un peu à niveau des matériels, notamment informatiques, hein, et qui font leurs petits clubs dans les maisons de quartier, qui aident les gens à réparer ou qui réparent un peu eux-mêmes pour changer une carte ou autre chose qui fonctionnait plus. C'est quelque chose, à un moment donné, on disait, bon, on change, là, le matériel complet. Et là, il y a quand même des gens qui se disent, faut pas exagérer, quoi.
Oui, on a les Repair Cafés au Forum des sciences, on accueille 3-4 fois par an. Et c'est vrai qu'il y a un engouement, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ont envie de réparer le matériel. Mais il y a une sensibilisation, je pense, qui a été faite. Les gens commencent à être sensibilisés à ça et à vouloir conserver plus longtemps le matériel. Et puis, moi, ce que j'y vois, c'est que c'est sur ces 20 dernières années, il y a eu un développement du téléphone portable qui s'est très, très fort développé pendant assez vite. Et là, ça se développe beaucoup moins. Les téléphones d'il y a 3-4 ans sont encore potables. Avant, 3-4 ans, pour un téléphone, il ne fonctionnait plus, en fait. Il n'y avait plus la possibilité de mettre à jour, etc. Ça a tendance à s'atténuer un petit peu. J'ai une vision un peu optimiste.
Non, mais c'est un sujet qui est abordé également dans l'exposition, et notamment c'est par Aurélien Tabar, qui est un des scientifiques qui a contribué à concevoir cette exposition. Il parle de l'obsolescence justement des smartphones. Alors il y a effectivement cette dynamique marketing qui effectivement peut nous pousser à vouloir remplacer plus rapidement un appareil simplement par effet de mode, mais il y a aussi quelquefois des personnes qui sont placées face à face à des difficultés à utiliser leur appareil, parce que tout simplement les mises à jour, elles ont un impact sur la possibilité d'utiliser correctement le device. Donc quelquefois c'est pas simplement effectivement une simple lubie de consommation, de vouloir remplacer son appareil. Quelquefois on est juste placé devant l'impossibilité de l'utiliser, son smartphone ou son ordinateur, tout simplement parce que la mise à jour elle vient impacter le matériel.
Tout à fait. On pourrait reprendre aussi les logiques de Windows, où la version 7, moi j'en ai encore des versions 7 qui fonctionnent très bien, mais il n'y a plus de mise à jour. Et après, les nouveaux logiciels, ils ont quand même du mal à valider la version 7. Ils disent plutôt 9, 10, 11. Et là, on se rend compte que c'est un engrenage avec toujours une course à la puissance aussi. Il faut des ordinateurs qui aient plus de mémoire vive, etc. C'est sans fin, en fait. On trouve toujours des solutions techniques pour améliorer, mais en même temps, on fait avancer la demande en termes de technologie pour que les gens aillent toujours au plus haut de ce qui peut être vendu à l'instant, alors que des versions de base fonctionnaient très bien encore avec des petits logiciels sympas que j'ai gardés et qui fonctionnent depuis 20 ans, certains.
Ben oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, pareil, on a des tablettes qui fonctionnent encore très très bien, ou une tablette téléphone, et en fait, les applications ne sont plus mises à jour, et donc du coup, elles ne fonctionnent plus, et du coup, on se retrouve avec du matériel qu'on ne peut pas utiliser. Et juste, on travaille avec Jean-François Coche, qui a monté une entreprise qui va recycler justement ce matériel-là et mettre en place des applications ou des actions pour pouvoir les réutiliser et les réemploi. Et donc du coup là on travaille sur réutiliser nous un écran tactile au Forum des Sciences qui était mis un peu au stockage et parce qu'il y avait une tache sur l'écran. Et on travaille pour le remettre à disposition du public et pour qu'on puisse avoir une animation avec ça. Parce que c'est aussi intéressant de réutiliser le matériel et de ne pas de devoir toujours à chaque fois racheter, parce que, mais de pouvoir faire du réemploi. C'est important.
Donc, je parlais un peu de la logique de Microsoft avec les Windows, etc., les séries qui s'envolent. Est-ce que Linux, par exemple, qui a priori un système de gens conscients de leurs responsabilités, a priori. Est-ce que Linux suit cette même évolution envolée vers des techniques, des matériels toujours plus performants, ou est-ce qu'ils sont capables de dire « Nous, ça suffit, on va encore s'en servir pendant 20 ans, ça marchera toujours avec notre logiciel et on l'adapte pour continue de fonctionner avec du matériel même ancien. »
Et vous me faites fort plaisir à mentionner ça, parce que effectivement, Linux est un système d'exploitation qui tourne à la fois sur les plus gros calculateurs du monde, mais aussi sur les plus petites bécanes. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez la Raspberry Pi, un ordinateur complet à 30 ou 40 euros, qui a vraiment des caractéristiques techniques nulles, mais qui tourne très bien sous Linux. Tous nos téléphones sont basés Linux, que ce soit iOS ou Android, tout ça c'est basé Linux. Donc ça roule du plus petit ordinateur au plus gros, il tourne sous Linux. Parce que Linux est une fondation, pas à intérêt commercial, mais gérée par de nombreux acteurs, dont des entreprises. Mais donc, Linux se bat pour juste améliorer la qualité du code. Si on y réfléchit un peu, de façon décroissante, on devrait se dire, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, alors le logiciel coûte moins cher à exécuter sur la même machine. Ma machine devrait s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour. Et donc, je voudrais juste donner les trois types d'obsolescence que j'ai étudiés. Il y a l'obsolescence fonctionnelle, c'est celle que vous mentionniez quand vous disiez « mon ordi apparaît nul maintenant », alors qu'avant il avait l'air bien, mais c'est maintenant il y a les nouveaux jeux vidéo, et du coup en fait la carte graphique elle suit plus, donc en fait il faut que je rachète un ordinateur parce que le mien a l'air dépassé par rapport aux autres. Il y a l'obsolescence de mode, que vous racontiez. Donc, il me faut absolument ce nouveau gadget. Moi, je craquerais bien pour un Roomba, pour tout vous dire, mais je me retiens. Mais si je vois une trop belle pub, je risque de craquer. Et il y a l'obsolescence programmée dont on parlait, type logiciel, là où on les a vus passer, Windows 11 et le dernier iOS. Là, c'est pas le dernier, mais c'est deux mises à jour qui ont été imposées aux utilisateurs quand même. Vous aviez beau cliquer sur annuler, annuler. Au bout d'un moment, on vous mettait la mise à jour de Windows 10 à Windows 11, et après, votre ordinateur ne marchait plus. Parce que Windows vous demandait maintenant un peu plus de mémoire, un peu plus de puissance de calcul, et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut réussir à combattre. Et encore une fois, j'y vois ici des questions de recherche pertinentes pour mes collègues et toute personne de la société civile, pour réussir à retransformer ce qu'on appelle des déchets électroniques, qui vont très bien, matériellement, en appareil utilisable.
Est-ce que la nouveauté à chaque génération, c'est pas la capacité de la société informatique à pomper les données davantage ?
Non, mais là, c'est pas... c'est pas le sujet.
Si, si, oui. Ça doit coûter aussi en énergie et en mobilisation du processeur, hein, de pomper les données en quantité vers le système.
On peut parler, pour rester dans le thème de l'exposition, du coup, je pense qu'on peut parler ici de l'effet rebond. C'est le fait que vous passiez d'une capacité, donc, par exemple, de calcul. Vous aviez un vieil ordinateur qui était, je ne sais pas, X1, ça avait une certaine capacité de calcul. Et puis maintenant, vous avez 4 fois la capacité de calcul précédente. Et vous en faites pas que dans peu de temps, vous allez sentir aussi les limites de ce nouveau matériel que vous avez acheté, parce que tous les développeurs font l'hypothèse que vous tournez avec le meilleur matériel et du coup font plus très attention à la quantité de mémoire qu'ils utilisent. Ou en fait, on a tendance à consommer ce qui nous est fourni. C'est l'histoire, en lien avec l'eau, d'une petite ville de montagne qui n'avait pas beaucoup d'eau. Il ne pouvait pas faire, par exemple, de lessive. Il faisait donc la lessive à la main. Et un beau jour, la municipalité a agi, a installé un nouveau système de distribution d'eau. Et 2 ans plus tard, la ville n'avait toujours pas assez d'eau. Donc, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ils n'arrivent plus à prendre de douche ? Parce que, entre-temps, avec la nouvelle arrivée d'eau, tout le monde s'est équipé de lave-linge. Et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, ou paradoxe de Jevons, du nom de l'inventeur. Le fait que quand vous comblez une demande en ajoutant une capacité, donc là de l'eau, vous rajoutez plus d'eau disponible pour la ville, eh bien on va utiliser toute l'eau qui est disponible, voire en demander encore plus. Et du coup, peut y avoir un effet retort. Et donc, on voit ça sur les systèmes numériques, mais on voit aussi ça, du coup, sur, avec cette problématique de l'eau.
Je pense que c'était avec vous qu'on avait discuté sur les LED. Et que les LED, c'est la même chose, en fait. Et que les LED consomment beaucoup moins d'énergie, sauf que maintenant, on met des LED partout. Ça s'est développé. Et finalement, on consomme plus d'énergie maintenant avec la LED, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'avant avec des ampoules normales.
Mais il y a des choses étonnantes, par exemple les feux d'artifice. Je suis allé à Paris au 14 juillet et je voyais un feu d'artifice. C'est plus fait avec des feux d'artifice habituels, quoi, avec la poudre. C'est fait avec des drones. Et j'ai vu là en Chine, alors ça ressemble à un feu d'artifice, mais ce sont des figures lumineuses, on va dire, avec 10 000 drones qui créent des formes, et tout ça piloté par un gars avec sa table d'ordinateur et qui gère les 10 000 drones qui créent de la lumière sur un scénario qui est écrit, bien sûr, hein, c'est un programme informatique qu'il a réalisé pour faire quelque chose de magnifique, mais qui n'a plus rien à voir avec les feux d'artifice d'autrefois. On a peut-être jugé très polluant, mais je serais curieux de voir, là, par rapport à l'obsolescence programmée des drones et de ceux qui sont massacrés entre-temps, ce que ça a comme impact aussi sur la planète, hein, d'utiliser ces matériaux à la place de, soi-disant, de la poudre qui pollue.
La poudre polluée ici, le drone pollue ailleurs, parce que le marché de la fabrication informatique est la plus grosse chaîne industrielle jamais construite. C'est facile d'envoyer une roquette sur la Lune par rapport à ça, je veux dire une fusée. Et vous allez polluer à beaucoup d'endroits quand vous faites du numérique, genre un drone. Vous allez polluer du coup les nappes d'eau pour faire de la mine dans les pays là où on fait de la mine. Il y a beaucoup, je sais pas, le cuivre, c'est beaucoup le Chili. Vous allez récupérer du lithium pour faire des batteries à vos petits drones qui consomment aussi beaucoup d'eau à sortir. Il faut faire grosso modo des marais salants à lithium. C'est encore au Chili, là, la plus grosse mine. Ça s'appelle des salars, donc des marais salants en lithium, en plein désert d'Atacama, là où il n'y a pas d'eau. Donc ils amènent de l'eau de très loin, ils la font s'évaporer sur place. On en entend parler aussi, là, il y a des controverses sur je ne sais plus quelle baie en Bretagne, là où il y a aussi du lithium. Et du coup, on aimerait bien. Ouais, on aimerait bien l'utiliser, mais du coup, bah, y a bien entendu socialement une acceptation qui n'est pas forcément là. Et une autre mine de lithium en France, en Allier, là où ce coup-ci, ce n'est pas des salars, c'est une bonne vieille mine, des cailloux, mais l'espace est déjà pollué par une ancienne mine qui se trouve au même endroit. Et là, du coup, pareil, il y a un problème d'acceptabilité sociale, compréhensible, hein, je n'ai pas une opinion à donner là-dessus.
Voilà, donc... Il y a encore des résistants, hein, d'une nouvelle façon de résister, peut-être. Là, par rapport à l'eau, justement, entre les usages normaux et ceux qu'on pourrait mettre à l'index, et justement enseigner aux enfants, notamment, comment éviter le gâchis, les pollutions qui sont liées à des activités. Est-ce que ça aussi c'est développé dans la pédagogie, comment éviter de polluer ?
Oui, alors lorsqu'on sort de l'exposition, on propose une série de bonnes résolutions aux visiteurs. C'est un des objectifs effectivement de l'expo de susciter des questionnements sur nos usages et aussi de prendre de bonnes résolutions pour pérenniser son matériel informatique, modifier ses usages. Donc effectivement, oui.
Donc vous avez conçu un village des sciences comme un village des sages.
En fait, pour répondre aussi à cette question sur envie de sensibiliser les plus jeunes, je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, quand il décide de dire bah, cette année, autour de la fête de la science, la thématique, ça sera un océan de savoir, il y avait ça derrière. Mm-hmm. Alors, cette envie vraiment de pouvoir toucher les plus jeunes, notamment pour sensibiliser à ça. Et donc, nous, au Forum des sciences, je disais, on va essayer de mettre en place des animations vraiment diverses et variées, qui va plaire le plus de monde possible pour que les gens viennent et aient envie de jouer avec cette notion, cette thématique de l'eau et pour pouvoir aller plus loin. Je disais, pour les animations qu'on propose hein, sur ce samedi et dimanche, il y a pour les tout-petits, des animations, une animation qu'on appelle Aquabis, qui est un jeu autour des océans. On pourra construire des bulles avec les médiateurs du forum. On a une animation photo en live painting, Ordi Rétro qui sera présent aussi pour pouvoir faire des jeux vidéo avec la thématique de l'eau. Voilà. Et puis, on a aussi d'autres activités, parce que c'est aussi la nuit des bibliothèques sur la métropole, et donc du coup, on en profite pour faire aussi des choses autour du fantastique, avec des ateliers autour de la lumière. On a un beau spectacle au Planétarium, qu'on a appelé les 12 histoires du Zodiac, qui est une création. Voilà. Et tout ça, on le propose gratuitement. C'est l'intérêt de le faire sur les événements. Et en plus de nos espaces hein, d'exposition qui seront gratuits. Alors en ce moment, on a ouvert la nouvelle exposition et a ouvert samedi dernier. C'est une exposition art et préhistoire, une exposition qui vient du Muséum national d'histoire naturelle, du Musée de l'Homme à Paris. Qui est une très très belle exposition pour découvrir les premières prouesses artistiques qui ont été faites à la fois dans les grottes mais aussi sur des objets, sur des objets du quotidien ou des différents petits objets. On a l'exposition pour les tout-petits autour du temps. Qui est une exposition qui s'appelle De temps en temps. Et puis, l'espace Enigma. On a des ateliers avec le musée d'histoire naturelle de Lille qui vient faire du hors les murs, parce qu'ils sont en travaux actuellement. Mm-hmm. Donc, du coup, ils en profitent pour venir chez nous. Et on les remercie beaucoup pour ça. Voilà, donc un panel d'activités qui va permettre d'accueillir toute la famille en fait, au Forum des sciences et d'avoir. Des animations jouées avec la notion de l'eau et en espérant qu'ils aillent aussi découvrir d'approfondir cette notion et se questionner sur leur pratique pour la préservation aussi de l'eau.
Alors c'est vrai que venir en famille c'est important, ne serait-ce aussi qu'après avoir vu, observé, analysé, rediscuter de ce qui a été vu pour, en termes de pratique, de développement peut-être, de comportement, hein, adapté à ces problématiques que vous soulevez.
Oui, c'est ça, l'important c'est effectivement qu'ils en puissent en discuter après en famille, que l'exposition elle est plutôt pour les adultes, on va dire lycéens, à partir du lycée.
À partir du niveau collège, ouais, 10 ans, à partir de la 3e.
Ouais, c'est ça, on va dire 10-12 ans, ouais, c'est là où ils vont commencer à s'intéresser à ça, mais c'est de pouvoir en discuter après avec les petits, puis de dire ah bah, attention à ta consommation, attention à ta consommation en eau quand tu prends ta douche, mais aussi ta consommation en multimédia.
Voilà, c'est vraiment l'occasion d'aborder tous ces problèmes dont on parle quand même un peu maintenant. Il faut quand même dire qu'on en parle. Est-ce qu'on fait suffisamment ? C'est la question. Et avec quels moyens ? C'est toujours aussi la question.
Je trouve un manque quand même, c'est les gens, le public, j'aime pas faire des formules à les gens, mais donc le public de manière générale est conscient de l'existence d'un problème écologique, mais souvent assez démuni par rapport à des solutions qu'il pourrait y trouver. Donc déjà d'une part, rassurez-vous messieurs, mesdames, vous n'êtes pas les seuls responsables de la situation. C'est un problème qui est macroscopique et dont l'entièreté de la réponse ne repose pas dans poubelle jaune ou poubelle normale. Mais oui, un exemple que j'aime beaucoup citer, c'est la grande différence de consommation entre utiliser son téléphone pour se regarder comme un miroir et utiliser son téléphone avec le filtre oreille de chien qu'on peut trouver sur Snapchat, Instagram ou d'autres applications, parce que votre téléphone n'est pas capable de faire ce calcul, de faire le calcul de détecter un visage, rajouter des oreilles de chien et puis reproduire une vidéo. Donc en fait, c'est envoyé en ligne à des serveurs, donc ça passe par l'infrastructure d'Internet, puis ça fait tourner des ordinateurs, et donc ça a une consommation qui est démentiellement plus élevée. Vous faites intervenir beaucoup d'acteurs subitement quand vous mettez votre petit filtre oreille de chien. C'est bête comme chou, mais là, bien entendu que l'utilisateur, l'utilisatrice n'a pas conscience, rien n'est indiqué sur l'application. Donc il faudrait peut-être afficher les contraintes matérielles, la consommation matérielle de nos usages. Et ça permettrait du coup aux citoyens et citoyennes de faire des choix éclairés. Moi, je suis toujours paumé devant cette poubelle jaune et c'est très agaçant du coup parce que je ne sais pas où ça va. J'ai aucune information sur le processus derrière.
Voilà, donc je pense qu'il faut réagir de toute façon et puis au moins calmer le jeu. C'est ça l'essentiel. On ne peut pas forcément retourner dans des grottes préhistoriques. Je ne sais pas si au musée d'histoire, des sciences, on revoit un peu les conditions de vie des hommes préhistoriques. Peut-être que ce n'est pas forcément complètement enviable non plus.
Non, et puis on a besoin du numérique pour répondre aux défis écologiques. On a besoin du numérique aujourd'hui pour apporter des solutions à la transition énergétique. Tout, effectivement, n'est pas jeté dans nos usages. Mais je pense que ce qui est nécessaire, peut-être, c'est de prioriser ces usages.
Voilà, trouver la bonne orientation pour ce qui permet de résoudre des problèmes, bien sûr.
Il me semble important de chercher dans notre histoire des solutions qui peuvent répondre à nos problèmes actuels. Ce que je veux, c'est qu'on évite d'opposer techno à fond avec Amish bougie. Il n'y a pas d'opposition, en fait. On peut chercher à remettre en question certains usages du numérique, ou au moins y réfléchir, tout en ayant une attitude progressiste et en disant nous allons vers le futur en mobilisant des bonnes idées du passé. Voilà. On ne souhaite pas un retour en arrière. On souhaite progresser vers un environnement qui est mieux respecté, tout en permettant à l'humanité de se développer.
Voilà, pas forcément la fuite en avant vers les dernières technologies absolument à posséder pour avoir l'air de quelqu'un.
Tout à fait.
Mais dans toutes les pratiques, hein, il suffit d'être raisonnable, il ne faut pas être trop gourmand, en fait, et consommer avec modération, que ce soit du chocolat ou du numérique.
Alors j'imagine que notre discours ici, en France, aurait une autre analyse vue, par exemple, d'un pays en voie de développement, que notre discours un peu, j'allais dire bourgeois, c'est pas ça, mais de gens qui possédons un minimum et avons les moyens de vivre en gros. Hein. Mmh. Il y a des marginaux, bien sûr. Je veux dire, ça peut paraître bien supérieur vu d'autres pays, et que si tout le monde vivait comme nous, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de planète, quoi.
Bien sûr. Mais c'est étant un pays privilégié dans son accès à l'énergie déjà, au numérique ensuite, et alors on a aussi une responsabilité qui est celle de regarder nos usages, etc. Souvent, je reprends un argument que me disent des véganes, en fait, tout bêtement, qui est de dire peut-être que le véganisme est une attitude de pays riche. Mais c'est parce qu'on a le choix que nous, on choisit de faire cette réflexion. Nous ne demandons pas à toutes les personnes qui ont du mal à se nourrir d'arrêter la viande. C'est nous qui le pouvons, alors il est de notre responsabilité de chercher des façons de consommer qui sont en lien avec les limites planétaires.
Après, on pourrait revenir sur comment on perçoit le développement de pays qui sont en voie de développement. Est-ce que leur développement nécessiterait que d'autres pays se désindustrialisent d'une certaine manière pour que la planète soit vivable. Il y a un système d'équilibre à faire, sans doute, entre ceux qui consomment trop et ceux qui consomment trop peu.
Une certaine justice.
Voilà. Il n'y a pas que la justice sociale, il y a la justice écologique peut-être aussi, mm-hmm. qu'on pourrait aborder. Ou alors on va avoir aussi les phénomènes dont on a parlé dans le sujet précédent, de migration et d'exil de certaines personnes qui ne peuvent plus vivre où elles sont actuellement, bien sûr. Mm-hmm. Déjà pour des raisons climatiques, mais parfois avec toute la pollution qu'on leur envoie, leur sol deviendra invivable ou infertile dans peu de temps. Mm-hmm. Donc on a des responsabilités à de nombreux niveaux.
Tout à fait.
Voilà, donc des réflexions à mener dans une journée qui va être dense, j'imagine.
Alors, c'est deux jours, hein, c'est samedi et dimanche, de 14h à 18h au Forum des Sciences. Enfin, un peu plus en soirée le samedi, puisqu'on a le spectacle 12 histoires du Zodiac en fin d'après-midi. Mais ouais, le forum est donc ouvert samedi et dimanche gratuitement pour la fête de la science.
Et un lancement des festivités demain vendredi, pardon, à partir de 17h, avec l'inauguration de l'expo.
Avec une belle table ronde, hein, avec des chercheurs,
des scientifiques,
qui viennent discuter sur la question de l'exposition. Et voilà, ça commence à 17h.
Genre vendredi. Track, tout à fait.
Voilà, bien, merci pour cette présentation. On propose bien sûr au public de venir en masse, mais sans apporter trop de choses polluantes sur place. Ramasser les papiers si vous en avez jeté par terre. Rester respectueux de cet environnement. Comment on aborde le Forum des Sciences d'une manière générale en tant que spectateur? Il y a des normes, des contraintes, un respect minimum. Si on envoie des foules là-bas, qu'est-ce qu'il faut avoir comme précaution?
Non, il n'y a pas de précaution à avoir en particulier. Pour venir au Forum des Sciences, je vous conseille de réserver, parce que ça peut arriver qu'on arrive et que du coup les espaces sont pleins, et donc du coup vous pouvez être déçu. Donc il faut vraiment réserver. Samedi et dimanche pour la fête de la science, on ne réserve pas, on vient sur place pour pouvoir réserver sur les créneaux. Il y a des animations en accès libre, mais il y a des ateliers où il faut pouvoir réserver, mais sur place. Voilà, mais sur le reste du temps, je vous conseille vraiment de réserver. C'est ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche pour les publics. Le mercredi, jeudi, vendredi pour les groupes. Et les groupes, souvent, sont pris, hein, beaucoup de scolaires qui viennent au Forum des Sciences. Du coup, vous voulez venir en groupe, je vous conseille fortement de réserver.
Voilà, et on préconise les mobilités douces, bien sûr, métro, vélo. Pour les groupes, c'est quand même mieux en métro.
Comme toujours, oui. En plus, on est accessible. Il y a le métro, la ligne 1, Hôtel de Ville, tout à fait, qui c'est juste à côté. Si on peut profiter de ça, on peut venir en vélo à Villeneuve-d'Ascq. C'est quand même très, très bien desservi en vélo. Et si vous êtes sur la métropole, n'hésitez pas à prendre le vélo.
Je reviendrai peut-être un jour avec Gérard Caudron, le maire de la ville, pour parler de la conception de la ville de Villeneuve-d'Ascq, comme elle a été réalisée, construite, pour permettre de circuler à pied pratiquement dans tous les lieux de ce territoire.
Oui, alors dans une autre vie, j'étais directeur de l'office de tourisme de Villeneuve-d'Ascq, et du coup j'ai travaillé sur la création des quartiers de la ville nouvelle. Et du coup, c'est une thématique qu'on risque d'aborder pour la prochaine thématique de saison du Forum des sciences 2025-2027, qui sera transformation-mutation. Et du coup, on réfléchit à pouvoir parler de l'architecture. On a l'architecte Monsieur Klein, qui était professeur à l'université et à l'école d'architecture de Lille, qui a aussi travaillé énormément là-dessus, qu'on espère pouvoir rencontrer prochainement et l'inviter au Forum des sciences. Et donc on a des projets autour de ça aussi également. Ouais.
Très bonne idée, ben, vous viendrez pour nous en reparler.
Avec plaisir.
À bientôt. Voilà, donc bonne fête de la science à toutes et à tous. Nous étions, alors je vais reciter un peu les noms des personnalités ici présentes. Samuel de Reder, responsable du service Action culturelle au Forum départemental des sciences. Il y avait également Adrien Luxet-Bitry, donc, et Julia Playa de l'INRIA. Donc n'hésitez pas à consulter le site de l'INRIA, il est très bien fait, il y a plein de choses. Là, on a vraiment effleuré l'ensemble des activités de l'INRIA, mais c'est tout un monde. Hein. Merci beaucoup, très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième séquence de Fête de la Science, et puis d'autres interviews que j'ai réalisées que je vous diffuserai la semaine prochaine. Il y a beaucoup d'actualités en ce moment intéressantes à partager avec vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, 106.6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Il va bientôt être 18h, et oui, l'heure de vous quitter.